Alors, comme on vient de le dire, cette présentation est le fruit d'un travail, d'une réflexion conjointe avec Irène Di Giorio, qui est un peu là avec nous ce matin aussi, même si elle ne va pas présenter la présentation. Mais donc voilà, c'est ce travail commun que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, la caricature a une longue histoire qui, à notre sens, comporte deux jalons importants. D'abord, finalement, les premières esquisses de cette pratique du dessin qu'on situe au XVIe et au XVIIe siècle. Et puis, deuxième jalon important, la massification de la caricature au XIXe siècle. Alors, si on tente de proposer la notion de caricature dans une perspective historique, on peut d'abord s'arrêter sur le mot même de caricature. Du point de vue étymologique, il s'agit d'un mot qui provient du mot italien caricatura, qui, à son tour, provient du verbe caricare. Ce mot désigne en fait l'action de charger, et singulièrement de charger certains traits du visage, certains traits du portrait. La conceptualisation de ce concept de caricature remonte au XVIe siècle et désigne la pratique d'un certain nombre d'artistes qui chargeaient ces portraits. Et vous voyez là, sur la droite, un exemple de ces différents visages qui ont été produits dans le cadre de l'Académie de Bologne des Caracci. Alors vous le voyez, ces caricatures, elles cherchent à mettre en exergue des traits du caractère à travers l'exagération de certains traits du visage. Et dans le même temps, ces esquisses que vous voyez ici, elles traduisent aussi un intérêt particulier pour l'anatomie du corps humain, qui aussi, à cette même époque et dans ce contexte artistique particulier, se développe. Alors l'artiste Gian Lorenzo Bernini, qui est un célèbre sculpteur et peintre du XVIIe siècle, s'est lui aussi illustré dans l'art de la caricature, et on voit ici une caricature du cardinal Scipione Borghese. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que Scipione Borghese, que vous voyez ici dans une autre œuvre de ce même artiste, donc ce buste, était en fait le mécène de Bernini. Vous voyez enfin aussi un autre portrait réalisé toujours par ce même artiste, hein, le Bernin, dont la ville de Rome garde pas mal de traces, hein, au niveau des sculptures, un portrait du pape Urbain VIII. Ce qui est intéressant, et la raison pour laquelle on a choisi cet exemple pour illustrer ce début de la caricature, c'est qu'on voit ici très très clairement le passage de cette œuvre sculpturale à la caricature avec des traits épurés et comiques, et qui montrait donc à notre sens bien la différence entre portrait et caricature. La massification de la caricature, elle intervient dans un contexte particulier. Et ce contexte particulier, c'est celui du long XIXe siècle. Ce long XIXe siècle est caractérisé par la massification des médias, mais aussi par la massification de politique. C'est le siècle des révolutions, c'est le siècle de l'émergence du débat dans l'espace public. Et la fin de ce XIXe siècle est marquée par l'émergence de la société de masse, qui se traduit par un certain nombre de développements, et un développement en particulier qui nous intéresse dans le cadre de la caricature, c'est celui des procédés de reproduction de l'image, comme par exemple la lithographie ou la chromolithographie. Et dans ce même mouvement de développement, la presse, elle aussi, va connaître une importante diffusion, notamment grâce à la technique de la presse rotative. Et c'est donc dans ce contexte bien particulier qu'émerge la presse satirique. Presse satirique qui s'inscrit donc dans ce paysage en transformation, mais qui n'est pas le seul véhicule de l'image, puisque va apparaître également à la fin du 19e, début du 20e, le photojournalisme, qui va se développer de façon massive dans l'entre-deux-guerres, donc à partir des années 30, mais photojournalisme qui, là aussi, véhicule bien sûr l'image, et qui, d'une certaine manière, va constituer une forme de concurrence avec le dessin de presse ou la caricature. Alors, l'Éclipse, donc ce journal que vous voyez représenté ici, est un exemple de cette presse satirique qui émerge à l'époque en France ou en Angleterre notamment. Alors, ce journal a succédé à La Lune, qui était tombée sous le coup de la censure, et donc il y avait ce jeu de mots entre Lune et l'Éclipse qui faisait la jonction avec ce journal disparu. Et la caricature étant à ce moment-là un outil de la sphère publique, un instrument de débat, eh bien, il va aussi finalement tomber sous le coup de la censure. Et donc dans cette représentation, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, la censure a un visage. Et ce visage, c'est, vous le voyez, Madame Anastasie. Alors c'est un personnage relativement antipathique, son visage n'inspire pas la sympathie, elle est représentée avec des ciseaux qui en fait illustrent, sont le symbole, symbolisent la censure, et puis avec une chouette perchée sur son dos qui est le symbole de la nuit, le symbole de toute une série de croyances obscures. C'est une représentation qui date de 1874, les années 1870 étant la période dans laquelle ce personnage de Madame Anastasie s'installe dans les journaux. Et donc, il y a ici ce jeu entre une presse qui représente de façon satirique eh bien, un élément, la censure, qui s'attaque justement à cette presse. Alors ce dessin permet de faire le lien avec l'exemple suivant que nous avons choisi, dans le cas particulier de la caricature finalement comme instrument de débat, de dénonciation d'un certain nombre de politiques. La force étant que l'image parle. L'image parle directement à ceux qui les voient, y compris des personnes illettrées, et donc finalement a devant elle cette image un espace de diffusion bien plus large encore que la presse classique. Et donc, à ses débuts, vous vous souvenez, on parlait de finalement révéler les traits de caractère à travers l'exagération des traits du visage. Eh bien, ici aussi, la caricature vise être un masque qui démasque et a pour ambition de montrer, dans ce cadre particulier du XIXe siècle, eh bien, ce que le sens commun ne voit pas. Et autre exemple donc, que nous avons choisi ici, c'est deux images qui sont liées à la conférence de Berlin, conférence de Berlin qui est dans la première que vous voyez sur la droite, donc conférence de Berlin 1885, qui est symbolisée comme le partage de l'Afrique, l'Afrique étant ici représentée comme un gâteau qu'on partagerait entre les différentes puissances. Autre exemple sur la gauche, dans le journal La Caricature, qui porte donc là bien son nom, ce même événement politique, hein, donc instrument de débat, de dénonciation politique, ce même événement politique de la conférence de Berlin est représenté ici avec une personnification. Qu'est-ce que ça veut dire? Une personnification des différentes entités qui composent l'Afrique. Vous voyez ces personnages humains qui, en fait, représentent ces différentes régions qui sont, finalement, arbitrairement et violemment séparées dans cette image. Alors, la caricature a donc cette force d'évocation, mais elle attire aussi assez rapidement l'attention du monde politique qui cherche à combattre la caricature, notamment par la censure, mais va aussi chercher à l'instrumentaliser. Et là, les guerres totales du XXe siècle, la massification des politiques vont avoir une répercussion sur les usages justement de cet outil la caricature. Lors de la Première Guerre mondiale, la caricature va garder son potentiel, son caractère d'outil de dénonciation, mais elle va aussi devenir un outil de communication persuasive entre les mains des tenants du pouvoir politique et militaire et, élément intéressant, de la part de tous les belligérants. Donc il y a vraiment un usage de tous côtés de cette caricature. Alors, le fascisme également va s'en saisir, et ça c'est ce qui illustre la caricature que vous voyez ici. Donc il y a une caricature de 1938 parue dans un journal local italien. La caricature, donc, lorsqu'elle est instrumentalisée de façon politique, change de rôle, on n'est plus dans la contestation politique ou sociale, mais on est dans le cadre particulier de l'exemple qu'on a choisi, dans une caricature qui participe à un discours raciste dans lequel intervient parfois une animalisation, comme on le voit ici avec cette représentation de la victime qui vise en fait à susciter l'émotion et qui vise à instrumentaliser et à justifier une action envers cette victime animalisée dans ce cadre-ci avec l'image du balai. Alors la caricature utilise très largement donc toute une série de procédés, l'analogie, la personnification, on l'a vu, l'animalisation aussi. Bien sûr, la caricature se comprend dans un certain contexte. Mais dans le même temps, on peut observer aussi que cette singularité du contexte, eh bien, ne doit pas masquer une certaine continuité dans les procédés utilisés dans l'image. Et ça, c'est notre dernier quatrième et dernier point. Donc, en guise de conclusion, encore quelques images. Alors, cette image-ci utilise la zoomorphie. Et vous voyez ici cette pieuvre qui, en fait, est une compagnie, la Standard Oil Company. C'est une représentation de 1904 qui a un pouvoir tentaculaire, donc qui est représenté par cette pieuvre et qui va enserrer en fait le Congrès et la Maison Blanche américaine, deux symboles politiques importants. Cette image de la pieuvre, on la retrouve dans d'autres contextes. Vous voyez ici un pamphlet américain qui va dénoncer ce qu'il présente comme un danger du communisme. Hein. Là, on est en 1938, enfin vers 1938, ou encore dans un autre contexte. Et ici, une affiche du Parti communiste français qui, après la Seconde Guerre mondiale, dénonce une mainmise des États-Unis. Et donc, pour terminer, réinsister sur le fait qu'on observe un certain nombre de procédés qui apparaissent de façon transversale dans le développement de la caricature. Le dessinateur fait appel finalement à une mémoire visuelle chez le lecteur, ce qui facilite la réception de ces images. Et si on assiste chaque fois à un nouveau contexte, donc ce contexte singulier dans lequel la caricature s'inscrit, eh bien, on fait systématiquement appel à des images déjà connues, mais qu'on va transformer, qu'on va reformuler pour faire passer un nouveau message. Deuxième élément qu'on a vu à partir de cette caractérisation physionomique, hein, vous vous souvenez, montrer, charger les traits d'un visage, eh bien aussi de manière plus générale, on n'a pas insisté particulièrement là-dessus, mais on va voir apparaître un certain nombre de types, entre guillemets, on va représenter de manière typique le bourgeois ou l'ouvrier, on va représenter de manière typique, entre guillemets, le juif, le musulman, et donc là, en fait, on ne va plus représenter la personne, mais on va représenter une sorte de communauté, de culture générique, mais aussi reconstruite d'une certaine façon, une catégorie abstraite. Autre élément transversal, l'anthropomorphisation avec la notion d'allégorie. On l'a vu dans l'exemple de l'Afrique, hein, avec ces personnes qui figurent, les différentes entités qui sont écartelées. Et enfin, la zoomorphisation avec l'exemple de la pieuvre. Et donc, en guise de conclusion, on souhaitait vous proposer simplement de voir dans les caricatures qui paraissent chaque jour, et bien justement, la continuité de ces différents procédés qu'on avait choisi de vous présenter. Merci.